Nous sommes vendredi 19 avril 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au forum de la presse du studio Kalangou, notre rendez-vous hebdomadaire pour le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Pour ce vendredi, nous avons trois sujets: le premier ministre de la Transition, Ali Mahamane Lamine Zen, et le PDG de la société chinoise CNPC ont procédé le 12 avril dernier à la formalisation d'un contrat de paiement à l'avance sur la quote-part du brut du Niger. Pour cet accord, le Niger a sollicité 400 millions de dollars, une partie de l'avance sur son pétrole brut, ont indiqué nos confrères de la télévision nationale. Le deuxième sujet est relatif aux professionnels des médias qui, à travers une déclaration le mardi 16 avril, ont annoncé la mise en place d'un cadre d'action des professionnels des médias Cap Média Niger en vue d'améliorer les conditions de travail des médias dans un contexte de la sauvegarde de la patrie. Selon les cadres, l'objectif visé à travers cette déclaration est la mise en place du Cap Média Niger pour les professionnels des médias publics et privés du Niger en vue d'apporter leur soutien aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la lutte pour la souveraineté nationale en plaidant pour l'amélioration des conditions de travail auxquelles font face les professionnels des médias nigériens. Le troisième sujet que nous allons décrypter ce soir est relatif au refoulement des mendiants nigériens par les autorités du Burkina Faso. Des tractations sont actuellement en cours entre les autorités des deux pays pour ramener ces mendiants chez eux au Niger. Pour décrypter ces sujets, nous avons le plaisir de recevoir dans ces studios M. Ousseyni Issa, journaliste indépendant. Bonsoir M. Ousseyni.
Bonsoir.
Nous avons aussi Maimouna Jado, elle est également journaliste indépendante. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Et enfin, nous avons Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative. Bonsoir Hassan.
Bonsoir.
À la modération, je suis Tarlan Fouda Ahmed. Bon retour au studio. Comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, le vendredi dernier, le premier ministre de la Transition, Ali Lamine Zen, et le PDG de la société chinoise CNPC ont formalisé des accords pour la vente du brut qui revient au Niger avec une avance de 400 millions de dollars que le Niger a sollicité. Madame Maimouna, quelle lecture faites-vous de ces accords et pourquoi ces prêts?
Bon, ce que je pourrais dire par rapport à ces accords, c'est que aujourd'hui, le CNSP est en train d'entreprendre une nouvelle dynamique d'accord entre les partenaires, parce qu'il faut réviser les accords, il faut aller vers des accords qui pourront avantager le Niger, puisque la CNPC et les prêts qu'ils ont pris sur le brut, c'est justement, comme l'a dit le Premier ministre, Lamine Zen, c'est de pouvoir renforcer la sécurité d'abord, investir dans la sécurité, puisque nous sommes dans un contexte de sécurité, et également investir dans le secteur agricole pour aller vers l'autosuffisance alimentaire. Et il y aura également plusieurs domaines qui seront concernés. Et moi, je pense que revisiter ces accords-là entre les Chinois et le Niger, pour ce qui est de la CNPC, puisque nous avons vu que la CNPC a souffert beaucoup de... est passée par beaucoup de problèmes, et où il y a eu également des Nigériens, des travailleurs nigériens qui se sont vus d'abord par injustice licenciés. Et des problèmes où on voit que ce sont les expatriés en fait qui servent de main d'œuvre alors que les jeunes Nigériens ne se retrouvent pas au sein de la CNPC.
Oui, vous l'avez évoqué vous-même, les problèmes que les Nigériens rencontrent avec cette société CNPC. Est-ce que selon vous, cette société mérite cet accord?
Cette société mérite cet accord puisque je pense que à travers cet accord, il y a eu des clauses que nous, peut-être qu'on n'a pas, on n'a pas pu connaître toutes les clauses, c'est vrai, mais je suis sûr qu'ils ont pris en compte également l'employabilité de la jeunesse nigérienne dedans. Et dans les accords qu'ils ont eu à signer, il y a le respect de la manière dont la CNPC doit fonctionner au Niger. Voyez, aujourd'hui, on ne peut pas signer des accords et laisser que la main-d'œuvre vienne d'ailleurs pour pouvoir travailler notre pétrole travaillé le brut, c'est pas du tout bien pour le Niger. Et je suis sûre que l'engagement aujourd'hui qu'ils se sont donné les autorités pour pouvoir mettre la main sur ces accords et également prendre l'argent d'abord sur un premier versement sur le brut, ça veut dire que tout simplement que c'est des accords qui ont été bien étudiés et bien ficelés.
Merci beaucoup Maimouna. Merci Ousseini. Les sanctions économiques et financières ont posé au Niger suite aux événements que vous connaissez. Pour d'aucuns, cette avance obtenue par le Niger sur son pétrole brut est perçue comme une bouffée d'oxygène. Est-ce que vous partagez cet avis?
Moi, je suis pessimiste. Je ne sais pas dans quelles conditions ça a été signé d'abord. Parce que tout simplement, on a juste balancé qu'il y a 400 millions de dollars qui ont été signés comme avance. Avec un taux d'intérêt de 7%, quelque chose comme ça. Sans compter une concession qu'on fait aux Chinois sur chaque baril, je crois, il y a 6 dollars qu'on doit leur concéder. Moi, je comprends pas tout ça, c'est flou. Il n'y a pas d'explication. C'est vrai, nous sommes dans une situation très difficile avec l'embargo qu'on a connu sur le plan international, au niveau sous-régional. Mais je me dis quand même, par rapport à ce genre de choses, il faut beaucoup plus de transparence. Parce que jusqu'ici, le souci des Nigériens, c'est de comprendre comment le pétrole a fonctionné depuis 2011. Jusqu'à 2021, 2022, jusqu'au coup d'État. Et il a été promis que transparence va être faite par rapport à l'exploitation et transformation pour vendre le carburant au Niger. Jusqu'ici, il n'y a rien. Et puis, soudainement, on nous dit, voilà, parce que tout simplement, à partir du, je crois, le mois de mai, les premiers tankers va être chargé. On a 400 millions de dollars, on est dans des difficultés, c'est vrai, tout le monde, personne ne peut le nier. Mais alors qu'on nous explique dans les détails, parce que moi, je suis sceptique.
Donc, selon vous, cet accord a été signé dans des conditions floues?
Oui, mais non, mais parce que vous voyez, quand on prend l'opérateur principal, c'est toujours les Chinois, de bout en bout. C'est eux qui exploitent, c'est eux qui déraffinent, c'est eux qui transportent, c'est eux qui vendent. Alors, nous nous retrouvons dans une situation où on n'a pas l'expertise nécessaire pour contrôler exactement. Actuellement, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas l'expertise pour pouvoir contrôler quelles sont les quantités qui vont être pompées. Jusqu'ici, c'est toujours dans le flou artistique qu'on nage. Alors, qu'est-ce que ça coûte de dire? On a entendu un peu les secteurs dans lesquels cet argent-là va être investi. On parle prioritairement de la sécurité. On parle de. Mais c'est ce que les gens demandent, c'est faire la transparence autour de ça.
En vous suivant, M. Ousseini, vous réclamez une transparence.
Je veux la transparence sur toute la ligne parce que moi, je parle sous le contrôle de Hassan Bouka qui fait l'analyse budgétaire. C'est un spécialiste de ces questions-là. C'est ça qui manque dans ce pays. On balance les chiffres quand les gens sont dans des difficultés et tout le monde acclame. Ah, c'est fini, nos difficultés sont terminées. Ça coûte quoi de faire la transparence?
Voilà, nous allons revenir sur cette question de la transparence. Je vais me tourner vers Hassan Boukar. Monsieur Hassan Boukar, selon vous, à part les secteurs évoqués, à quoi sert réellement ces prêts? Est-ce qu'il y a d'autres choses pour lesquelles ces 400 millions vont servir?
C'est toujours difficile de répondre justement à cette question parce que c'est quand même le gouvernement qui reçoit l'argent, c'est lui qui l'utilise. Donc il a annoncé, comme mes prédécesseurs l'ont dit, un certain nombre de secteurs dans le domaine de la sécurité dans lesquels cet argent va être utilisé. Donc ça pose au fond les enjeux de transparence. Hussein a beaucoup insisté là-dessus. Je pense que le pétrole un peu partout a souvent causé de la discorde, notamment ça alimente la suspicion, ça alimente la corruption et du coup les citoyens ont l'impression d'être grigés par ceux qui ont en charge de la gestion des affaires publiques parce que ce n'est pas suffisamment transparent. Or, une ressource comme le pétrole, ça a beau durer, ça finit un jour, hein, ça finit par s'en aller. Et quelquefois, ça fait beaucoup de dégâts sur le plan environnemental, etc. Là, par exemple, on peut dire tout de suite que, de certaine façon, c'est une bouffée d'oxygène pour le régime. Hussein a rappelé l'embargo que le pays a connu pendant plusieurs mois. Ça a été des moments difficiles pour les Nigériens. Maintenant, il y a certes la question de la sécurité, mais il faut aussi songer aux secteurs sociaux dans lesquels il y a quand même beaucoup de difficultés. La campagne agricole n'a pas été forcément bonne partout dans le pays. Secteurs comme la santé, comme voilà, on ne s'attend pas à du miracle, hein, mais malgré tout, y a quand même des besoins d'essayer de gérer ce qui est le plus urgent, le plus nécessité, etc. Il faut arriver à le faire. Donc la question de la transparence, à mon avis, c'est une question qui va être permanente, qui va revenir souvent, parce que là où il n'y a pas la transparence, ça crée forcément la discorde entre les dirigeants et ceux qui gèrent.
Justement, par rapport à cette question de la transparence, nous sommes dans un régime d'exception, si je peux le dire. Il y a plusieurs organes, normalement, qui doivent contrôler cet argent qui n'existe pas. Comme vous le savez, la Constitution a été suspendue. L'Assemblée nationale, qui devait en principe exercer un contrôle externe, n'existe plus. Selon vous, comment ce contrôle de transparence va être effectué?
Mais vous soulignez quelque chose d'important. Évidemment, les institutions de contrôle aujourd'hui, elles sont absentes pendant la transition. Il n'y a pas de cour des comptes, il n'y a pas d'Assemblée nationale. On a connu une institution comme la HALSIA qui lutte contre la corruption. La HALSIA aussi a été dissoute. Du coup, je pense qu'on peut d'une certaine façon se poser la question de finalement qui va faire le contrôle. Mais cela ne suffit pas. Comme vous le savez, récemment, le gouvernement a pris une ordonnance qui renforce les exceptions dans l'offre de marché public pour le domaine militaire, pour les questions de l'intendance, des palais, etc. etc. Donc, il y a énormément de faiblesses de ce type qu'on peut souligner. Du coup, pour l'instant, on ne sait pas qui fait le contrôle. Donc, il y aura des ressources. Le pétrole, on est parti d'à peu près 20 000 barils le jour. Aujourd'hui, avec le brut qui est exporté, ça fait quand même beaucoup plus de pétrole. Et donc, normalement, beaucoup plus de ressources qui entrent dans le pays. Par contre, comme vous le soulignez si bien, actuellement, il n'y a pas de système de contrôle.
Et qu'est-ce qu'il faut faire à ces
Alors,
niveaux est-ce qu'il y a une solution?
C'est une bonne question. Normalement, il y a quelqu'un dont le rôle est de contrôler. Les médias sont là. On peut s'adresser à ce que les médias fassent leur travail. Le contrôle citoyen de l'action publique. Mais tout cela a besoin d'un cadre. C'est-à-dire qu'il y a un cadre qui est favorable au travail des médias. Il faut qu'il y ait une véritable liberté de la presse dans le pays, de façon à ce que les médias fassent leur travail. Il faut que les médias veuillent aussi le faire. Hein. Il peut avoir toutes les libertés. Si les médias ne veulent pas faire ce travail, ils ne le feront pas. Il y a les citoyens, le rôle, et aussi de faire de contrôle citoyen de l'action publique. Mais encore une fois, tout cela a besoin d'un climat favorable à ce type de... Là où il n'y a pas ce climat, évidemment, le contrôle sera difficile.
Nous allons revenir sur cette question de contrôle en cette période. Cependant, j'ai une question commune pour vous trois. D'abord, je donne la parole au doyen Ousseini. Ce taux est jugé très élevé par certaines, parce que vous savez, le Niger a déjà fait face à des dettes qui s'élèvent à plus de 5 200 milliards de francs CFA, comme l'avait indiqué en septembre dernier le premier ministre Lamine Zen. Cette fois-ci, pour ses prêts de 400 millions, le taux d'intérêt est de 7%, soit 28 millions de dollars, ou bien un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Est-ce que selon vous, ce taux est vraiment élevé?
Mais moi, je ne suis pas un technicien du domaine, mais quelque chose je vais dire, c'est que on sent qu'on est toujours dans un flou artiste par rapport à ces questions-là, n'est-ce pas? On pensait être sorti de l'auberge, mais on est toujours dans l'auberge par rapport à cette question. Boukar Abba vient de souligner quelque chose. Cette ordonnance-là, cette fameuse ordonnance qui a été prise, qui a suscité beaucoup de remous. À ce que je cherche, il n'y a pas eu renonciation par rapport à cette ordonnance. Ça montre déjà qu'il y a quelque part une volonté, parce qu'on dit ici les questions sécuritaires, les questions d'intendance, ceci, cela. Non, en matière, même dans un contexte d'exception, si on veut réellement créer les conditions pour que l'argent public soit utilisé à bon escient, c'est qu'on crée les conditions aussi pour que la transparence prévale. Mais avec cette ordonnance, mais même le comptable public, il va être géré. L'argent là va être géré comment?
Oui, nous allons revenir sur ça.
Non,
mais 7% là, c'est ça, nous
c'est
voulons
beaucoup,
savoir. Est-ce que c'est beaucoup?
Non, mais je vais dire 7%. 7%. C'est pas cadeau qu'ils sont en train de nous donner. Est-ce que c'est cadeau? Ils n'ont pas dit cadeau, hein, n'est-ce pas? Et quand tout à l'heure j'ai souligné quelque chose, c'est le même opérateur, c'est les mêmes Chinois. De l'extraction jusqu'à la vente, n'est-ce pas? Pour ce qui est du brut. Jusqu'à la vente, parce que c'est l'opérateur qui a été choisi pour vendre le carburant. Alors, déjà, on n'a pas une maîtrise totale par rapport aux quantités même qui sont pompées. On n'en a pas parce qu'on n'a pas les spécialistes pour pouvoir contrôler et vérifier si réellement ce qui est annoncé là, ça correspond réellement. une petite digression. J'ai fait partie une fois d'un atelier de validation d'études d'impact environnemental dans le cadre de, je ne sais pas, c'était la mine d'Azélique, la mine chinoise. Là.
Oui. Somina, Société minière d'Azélique.
D'Azélique. On nous a donné un document où il y a une partie qui est en chinois, avec des statistiques en chinois et tout et tout. On a décliné, on dit non. Mais comment on peut nous soumettre un document? Nous, on ne lit pas chinois. Comment on peut comprendre quelque chose dans ce document? C'est pour montrer un peu que, bon, on miroite les choses. C'est, pour moi, c'est trop. 400 millions, ça a été fait, ça a été concocté entre le gouvernement et les autorités. Et tout. Les Chinois, ils ne font pas, quoi qu'on dise.
Pour les remboursements de ces prêts, nous allons payer 428 millions de dollars à la Chine, 7%, un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Vous, comment
moi,
vous trouvez ce taux?
Si on est capable de payer jusqu'à 7%, voire 17 milliards, c'est ça? Ça s'élève à
un peu plus de 17
milliards. Un peu plus de 17 milliards, mais comment est-ce qu'on ne peut pas trouver les 17 milliards là et puis créer les conditions pour pouvoir investir nous-mêmes dans nos projets, dans les différents projets qu'ils ont soulevés? Parce que ce qu'on avait, dit depuis tout ce temps, c'est qu'on s'est dit qu'il y a l'argent dans ce pays. Ceux qui détiennent l'argent, détiennent l'argent. L'argent du contribuable. On a laissé des gens qui ont dilapidé de l'argent du contribuable. Maintenant, on prend encore des prêts et on demande à ce que cette population qui souffre déjà, parce que c'est une souffrance que ces populations sont en train de subir. Tout le monde sait que nous sommes en train de traverser une crise. Que ça soit crise alimentaire, que ça soit crise financière. Maintenant, vous demandez, à part le fonds déjà où les populations sont en train de contribuer et de venir encore contribuer pour payer plus de 7% du prêt qui a été concocté au niveau donc de ces Chinois-là. Mais ça serait encore très difficile parce qu'il faut se poser la question comment est-ce que ça va se faire. C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Donc, est-ce que les Nigériens vont continuer à serrer la ceinture et pour de l'argent qu'on vient nous miroiter pour que nous puissions payer, alors que quand nous payons, nous ne voyons pas le changement que peut-être ça peut donner au niveau donc, de cette population-là. C'est ça aussi, parce que comme on dit, wait and see, nous allons essayer de voir comment est-ce que ça va évoluer. Est-ce que ce qu'ils nous ont promis, là où ils vont investir l'argent-là, qu'est-ce que ça va changer en termes donc, de profit pour ces populations-là? Parce que c'est les populations à la base qui vont aujourd'hui collecter pour pouvoir payer à travers les impôts.
Juste un mot sur la dette. Lorsque vous endettez chez quelqu'un, le premier calcul qu'il fait, c'est quel est le risque qu'il prend en vous prêtant de l'argent. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'il estime être les risques, les taux sont élevés. Sinon, à des moments où on s'est endetté à un taux inférieur à 7%, y compris en prenant des obligations de trésor sur le marché. C'est-à-dire que sur le marché, vous vous endettez aux conditions du marché. Mais si vous avez un partenaire comme des privilégiés comme la Chine, le Premier ministre a dit c'est un grand ami. Alors, est-ce que les Chinois ont dit, bon, ces gens-là sont coincés. Et sachez que c'est pour 12 mois, hein, c'est quand même une dette. Donc, il y a tout un débat, sauf que les Nigériens ne s'intéressent pas beaucoup à ces questions, c'est l'impression que j'ai.
Voilà. Donc, merci à vous trois pour vos premières analyses sur notre premier sujet. Cette affaire de prêt de 400 millions de dollars avec 7% de taux d'intérêt. Maintenant, nous allons marquer une petite pause avant de revenir sur notre deuxième sujet. Passons à présent au deuxième sujet de ce forum de la presse. Les professionnels des médias nigériens ont, à travers une déclaration de presse rendue publique le mardi 16 avril, annoncé la mise en place du cadre d'action des professionnels des médias CAP Niger Média en vue d'améliorer les conditions de travail des médias dans un contexte de la sauvegarde de la patrie. Monsieur Ousseini, pour la création de ce cadre, quelle mission doit-il accomplir? Est-ce que les professionnels des médias ont-ils besoin de créer un tel cadre pour soutenir la transition?
Bon, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je suis un peu en retrait par rapport à certaines choses depuis. Parce que j'ai connu les anciens cadres où j'ai contribué à les mettre en place activement, de manière très active. Maintenant, mais depuis, on a constaté qu'il y a des problèmes au niveau des médias. Il y a des problèmes, on sait comment les problèmes sont arrivés. Il ne faut pas se bercer d'illusions, il ne faut pas se voiler la face, on sait comment les problèmes sont arrivés. Tout est lié à l'instrumentalisation, la politisation des médias à outrance, quoi. Y compris les médias privés, hein, surtout les médias privés. Si on en est là, c'est parce que tout simplement, des gens ont considéré qu'à un certain moment, il faut créer les conditions pour que les médias privés soient sous système qui était là, où c'était plus la confraternité et tout et tout. On a connu l'épisode de la Maison de la Presse qui a cessé aujourd'hui, en tout cas qui est en stand-by, n'est-ce pas? Et c'est dans ce contexte que ce nouveau cadre s'est créé. Bon. Je n'ai pas apprécié, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, que c'est pour promouvoir les intérêts. Ça fait longtemps qu'on court après ces questions-là. Améliorer les conditions de vie et de travail des médias. Mais malheureusement, est-ce que les gens sont sincères dans la démarche? C'est toute la question qu'il faut se poser. Parce que souvent, bon, c'est souvent des choses où des gens se disent, bon, on se met ensemble parce qu'il y a une situation qui est là. Il y a un démantèlement, il y a un relâchement par rapport à la lutte. Moi, je fais partie peut-être des derniers, peut-être que ce qu'on a qualifié des gens qui se sont battus pour que les conditions soient améliorées. En tout cas, qui n'ont pas lâché prise. Qui étaient toujours là pour pouvoir faire en sorte que les choses. Mais quand, devant certaines situations, je me suis dit, mais tu t'es fait du sang noir pour rien parce que les gens vont te prendre pour rien, t'insultent, on te vilipende pour rien, tu gagnes. Le problème fondamental, c'est bien ce qu'ils ont dit. Mais indépendamment de ce nouveau cadre, il y a déjà un autre cadre là qui était là, qui fait chaque semaine des
voilà, nous
bon, a... moi je ne vais pas prendre parti.
Monsieur Hussein, nous allons
revenir sur ces cadres. Que...
voilà. Donc, monsieur Hassan Boukar, moi je voudrais vous demander les cadres d'action pour les professionnels des médias. Quelle valeur ajouter aux structures existantes? Une structure révolutionnaire ou bien c'est juste une structure de plus?
Si, moi, ce que je sais, c'est que les problèmes du secteur sont bien connus. Hussein les a rappelés, il y en a qui sont très bien connus. Si les gens se donnent pour mission de travailler pour améliorer le cadre, c'est une bonne chose. A priori, il n'y a pas de problème. Mais à mon avis, le problème des médias est un problème extrêmement profond. Regardez aujourd'hui, quand on parle des problèmes de ce pays, on parle de la sécurité, on parle des questions des secteurs sociaux, on oublie que le développement est un tout. Vous ne pouvez pas combattre la corruption quand il n'y a pas de médias qui jouent véritablement leur rôle. Vous ne pouvez pas renforcer la démocratie quand on n'a pas de médias qui jouent leur rôle. L'insécurité aujourd'hui, on voit comment des malentendus, des mésententes se développent entre communautés. Si vous n'êtes pas capable d'avoir des médias qui parlent à tout le monde, qui font sortir les vrais enjeux, n'est-ce pas, pour faire peu de place aux rumeurs, à tout le monde. Vous ne pouvez pas développer un pays. Le rôle des médias est un rôle central dans la démocratie. Et donc, si on veut réellement aujourd'hui avoir des médias dans un environnement économique favorable qui joue véritablement leur rôle, en ce moment, je pense que c'est un travail de fond qu'il faut faire. Maintenant, chacun fait ce qu'il peut. Je pense que face à ce qu'il y a aujourd'hui, il ne faut pas croiser les bras pour faire des choses hein, qui peuvent paraître minimes par rapport à l'immensité des problèmes à régler. Mais le plus long voyage commence par le premier pas. Donc, si telle est l'intention, moi, je leur souhaite du courage.
Mais il y a déjà des structures qui existent. Elles ont échoué ou bien celle-là est venue pour les révolutionner?
La bonne question, on doit la poser à ceux qui l'ont créé. C'est-à-dire, est-ce qu'ils estiment que les cadres sont déjà dépassés, les cadres qui existent? Ils connaissent bien ces cadres. Certains sont aussi dans les cadres que je vous citais. Donc, je pense que la bonne question, c'est sans doute eux qui ont la réponse.
Voilà. Mais Mouna, ces cadres qui se veulent fédérateurs, dans sa déclaration, il a évoqué un point aussi très important, l'amélioration des conditions de travail des professionnels des médias publics et privés. Selon vous, comment il doit mener ce combat?
D'abord, je vais partir du fait que aujourd'hui, c'est un cadre qui a été créé, donc on ne peut que souhaiter bon vent à ce nouveau cadre, mais je pense qu'il faut qu'on retourne à la source, c'est-à-dire revisiter les syndicats qui existent, redynamiser ces syndicats des médias, de la presse privée et de la presse publique, comme ils le disent. Tant qu'on ne part pas à la base, on ne montre pas que le syndicat qui a été créé, le syndicat est en mesure aujourd'hui de défendre les intérêts des journalistes, que ce soit de la presse privée ou de la presse publique, comme on aime à le dire. Il faut aller sur la base d'abord de sensibiliser les journalistes ou les hommes de médias qui travaillent dans ces médias privés pour leur dire voilà l'intérêt que vous allez avoir en vous mettant dans un syndicat. Le cadre qu'ils ont créé, ils ont bien dit que c'est un cadre qui réunit les syndicats du secteur public et du secteur privé pour faire la fusion, pour qu'on ne parle plus d'abord de ces syndicats publics-privés, mais qu'on parle de syndicats point barre, un syndicat de la presse nigérienne. On est d'accord. Maintenant, est-ce que les autres syndicats ou bien les autres structures qui étaient bien avant le cadre ont échoué dans leur mission? Si aujourd'hui il y a cette idée de créer ou bien l'idée de créer ce cadre, ça veut dire que pour ceux qui ont créé le cadre, les structures qui existaient ont échoué et il faut prendre la relève pour pouvoir peut-être redynamiser les choses. Mais est-ce que la question qu'on se pose, est-ce qu'en créant ce cadre-là, est-ce que ça va résoudre les difficultés de ces hommes de médias qui sont dans le privé? Parce que ce sont eux aujourd'hui qui sont dans cette situation de précarité et non les hommes de médias qui sont peut-être au niveau du public et qui là-bas, même s'ils ont des problèmes, les problèmes n'atteignent pas les problèmes de ces hommes de médias qui sont dans le privé. Il faut essayer, parce qu'on dit que chacun de nous a son problème. Il faut essayer de répertorier les problèmes. Et je suis sûr que les problèmes, ce ne sont pas les mêmes problèmes que ces hommes de médias ont. Il y a une marge, en tout cas, de sécurité entre ces hommes de médias. Mmh. Mais l'un dans l'autre, nous les soutenons, puisque nous faisons le travail de corporation de journalistes, des hommes de médias. Nous allons les soutenir et nous allons voir, en tout cas, jusqu'à où ça peut arranger les choses. Mais ce que je voudrais, c'est que jusque-là, il faut qu'on fasse la lutte pour pouvoir instaurer la maison de la presse qui est la maison fédérateur. Mmh. Ça veut dire qu'on a eu suffisamment de temps pour pouvoir aller, en tout cas, revisiter les textes de la maison de la presse qui va nous permettre à nous autres journalistes de se retrouver dans ce cadre-là pour pouvoir travailler pour le bonheur de ces journalistes-là. Ça ne sert à rien aujourd'hui de mettre un cadre à part et de faire encore un autre cadre. C'est pas que je suis contre le cadre, je ne suis pas contre le cadre, je suis bien avec le cadre, mais je me dis que ce que nous avons eu comme acquis, il faut qu'on sache sauvegarder l'acquis qu'on a eu. Nous avons eu l'acquis d'avoir la maison de la presse avec des journalistes qui ont, en tout cas, qui se sont battus pour mettre en place la maison de la presse. Continuons à dénoncer cette situation de la maison de la presse et qu'on revienne avec un nouveau staff pour la maison de la presse et qui va prendre en compte tous ces problèmes-là.
Merci, Ousseini. Je reviens vers vous. Ceux qui ont rendu la déclaration du mardi pour la mise en place de ces cadres, la plupart sont des jeunes confrères. Selon vous, dans ces contextes où tout ne se dit pas comme on veut, et même si ça se dit, en tout cas ça se dit d'une autre manière avec des réserves, comment ils doivent encore une fois de plus se comporter pour vraiment défendre les intérêts de leurs confrères?
Bon, d'abord, comment ils doivent se comporter? On connaît tous aujourd'hui dans quelle situation se trouve la maison de la presse, la maison fêtière qu'on a contribué à mettre en place dans ce pays-là. Il faut aller droit au but. Cette maison a été dénaturée. Je l'ai dit haut et fort, où des gens ont considéré qu'on peut l'inféoder à un système politique. Ce n'était pas créé dans le but de l'inféoder à un système quelconque. Chacun vient avec un peu, comment dirais-je, ses convictions, ses opinions politiques, mais c'est un cadre pour défendre une corporation. Mais malheureusement, quand le cadre s'est retrouvé dans une situation où c'était ça qui a amené ce problème, et c'était ça qui a amené le problème où, carrément, aujourd'hui, on ne parle plus de la maison de la presse, et c'est quelque part ça qui a suscité la mise en place de ce nouveau cadre-là. Il ne faut pas tourner autour de la case. On finit toujours par entrer dedans, et je l'ai dit haut et fort.
Voilà.
Quand on doit faire une corporation, on doit mettre de côté les considérations politiques individuelles, on doit les mettre de côté, on défend les intérêts. Le seul pays, j'ai constaté, où pratiquement les gens, ils se préoccupent, où les médias se préoccupent, où les journalistes se préoccupent peu de leur sort, c'est bien le Niger. Ils sont tout le temps en train de défendre la cause des autres, mais ils sont incapables de défendre. Les gens défendent la cause de leur pain. On ne peut pas construire un média et faire respecter le média sur cette base. On est arrivé à ce niveau-là. On est arrivé à ce niveau parce que tout simplement, des gens ont considéré que c'est en s'affiliant. Moi, j'ai dit tout à l'heure, Abba a dit quelque chose de très important. Que des médias indépendants, des médias, quand je parle d'indépendance privée, des médias qui sont capables d'assumer efficacement leur rôle dans la société. Ça manque de plus en plus. Les gens sont inféodés aux structures, aux hommes, et ceci, cela. Et ça ne fait pas fonctionner. Ça ne fait pas renforcer la force. Ça ne donne pas la force à des médias. On s'est retrouvé dans cette situation où des gens considèrent que c'est mon gars, il ne faut pas l'attaquer. Je ne sais pas. Même si on l'attaque, c'est quelqu'un d'autre qui répond. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un.
Il y a plus de confraternité, il faut le dire.
À partir de ce moment, qu'est-ce qu'on se retrouve dans quelle situation?
Voilà.
Renforcer quoi?
Voilà.
Le pain.
On va donner la parole à Samboukar. Tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose qui est très important. Au moment où certains organes ou certaines structures ou certains organes de contrôle ne sont pas là, la presse a un rôle à jouer. Et la création de ces cadres intervient au moment où on a besoin de journalistes pour travailler, pour dire aux Nigériens ce qui se passe. Est-ce que ces cadres peut réussir cette mission?
Moi, je vois le journaliste, c'est quelqu'un qui travaille dans un organe, mais c'est aussi quelqu'un qui a une vision de son métier. Il s'engage sur un terrain, il s'engage sur des sujets, il a un travail à faire et il le fait dans l'organe où est-ce qu'il a choisi de faire. Il y a les questions qui sont liées à la corporation, la question des conditions dans lesquelles les journalistes travaillent, les conditions de recrutement. J'ai entendu parler de la publicité pour la survie des organes de presse. Il y a ces éléments. Mais ce dont je suis en train de parler, moi, c'est le pouvoir public que j'interpelle. Il faut qu'ils comprennent que le rôle des médias dans une société est un rôle extrêmement important, c'est-à-dire développer un pays, le renforcer. Ça passe aussi par des médias indépendants qui jouent leur travail, qui jouent leur rôle. Or, les médias, il y a des pays avec lesquels on a commencé à faire ce travail. On voit bien que certains sont partis loin, d'autres ont avancé. Chez nous, ça patine encore, ça traîne. Donc, il y a sans doute quelque chose à faire.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour redresser les choses?
Il faut commencer par créer un environnement économique favorable. Je pense qu'un des problèmes des médias, ça a été une question de survie. Ça a été une question de survie. On a un environnement qui n'est pas propice à la survie des médias. On peut demander aujourd'hui, les organes qui sont nés au lendemain de la conférence, à partir de Askia aujourd'hui, il y en a combien qui survivent? Il y en a très peu, si on fait le bilan. Ça veut dire qu'il y a un environnement qui bouffe les médias, finalement, qui ne permet pas l'émergence des médias, des organes de presse, à même d'employer des gens, pour que les gens puissent vivre de leur travail. Je pense que jusqu'à présent, on n'est pas arrivé à le faire. Donc, il y a vraiment un travail. Et si on n'arrive pas à le faire, je pense que le développement en pâtira quelque part. Encore une fois, vous aurez du mal à bâtir une vraie démocratie, des libertés sans des médias qui jouent leur rôle. Conviction.
Voilà, merci beaucoup à vous trois. Nous allons marquer une petite pause. Nous allons entamer la dernière partie de ce forum, une partie qui est consacrée à la mendicité pratiquée par les Nigériens à l'extérieur. Des centaines de mendiants nigériens sont sur le point d'être refoulés par les autorités du Burkina Faso. Avant de vous donner la parole, nous allons d'abord écouter la réaction de Abdelkader Moussa, membre du Haut Conseil des Nigériens à Bobo Dioulasso.
Nous avons tenu une réunion avec les autorités du Burkina Faso qui nous ont parlé de leur intention au sujet des mendiants nigériens. En effet, c'est dans le sort de pouvoir arrêter la mendicité à travers les grandes artères de la ville, car cela peut avoir des conséquences qui peuvent entraîner des accidents de la route. Les autorités du Burkina Faso nous ont proposé des solutions alternatives pour ces mendiants. Par exemple, les activités génératrices de revenus ou de donner des fonds de commerce pour les personnes qui veulent revenir au Niger. On a recensé plus de 400 enfants et plus de 300 adultes, au total près de 800 personnes. Et la réunion s'est déroulée en présence de notre consul à Bobo et de l'attaché militaire de l'ambassade du Niger au Burkina Faso et le Haut Conseil des Nigériens à Bobo. La plupart de ces mandats sont des ressortissants de Kantché, Matamaï et aussi de Kachina au Nigeria.
Vous l'avez constaté. Il s'agit de la mendicité des Nigériens au Burkina Faso. Au Burkina Faso, il faut le rappeler, les articles 242 à 249 de la loi numéro 043/96/ADP du 13 novembre 1986 portant code pénal interdit la mendicité. De même qu'au Niger, cette pratique est interdite par les articles 172 à 182 du code pénal. Maimouna, quelle analyse faites-vous de ce phénomène?
Cela, c'est un phénomène que moi je n'arrive même pas à expliquer, parce que aller au Burkina à côté, alors que nous avons les mêmes réalités aujourd'hui, parce que il faut pas se cacher la face. Hein. En fait, je savais même pas qu'il y avait un nombre élevé de Nigériens qui pratiquent la mendicité au niveau du Burkina Faso. Mais on a vu le cas de la Libye, de l'Algérie, où ils ont été amenés de force ici au Niger. C'est, mais quand on dit ici à côté au Burkina Faso, les mêmes réalités, c'est la oh, nous sommes dans une situation sécuritaire, nous sommes dans une situation de famine, parce que quand la sécurité est là, ça veut dire qu'il y a également les problèmes à manger. Donc moi, vraiment, je suis dépassée et je ne sais pas comment est-ce que les Nigériens réfléchissent aujourd'hui pour aller se retrouver encore dans d'autres pays. Certainement que c'est pour le Burkina Faso qu'on a vu, et certainement qu'au Mali, ils sont encore en plus grand nombre que ça.
Oui.
Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous faisons partie de l'AES que les autorités burkinabènes ne peuvent pas prendre leurs responsabilités pour les rapatrier. Parce qu'ils ont déjà des problèmes chez eux. Pour pouvoir contenir même leur population, c'est un problème. Alors, contenir jusqu'à combien de personnes? 800 ou je ne sais pas.
Ils sont au nombre de 800, 300 jeunes et 400 adultes.
C'est ceux qui ont été enregistrés.
Oui,
je suis sûr qu'il y a d'autres qui ne se sont pas fait enregistrer. Quand on regarde même Niamey, regarde comment ça se passe. La mendicité même à Niamey, ça fait peur. Aujourd'hui, tu les vois un peu partout. Il y a même ceux qui t'agressent. En demandant même que tu leur donnes, ils ne savent pas te parler gentiment. Et regarde comment on se transporte avec les enfants pour aller jusqu'au Burkina Faso. Ce n'est pas peut-être que là-bas, là, pour eux, c'est l'Eldorado. Mais je pense que même si je veux aller mendier, je vais chercher un autre pays où je me dis que les conditions sont mieux favorables. Mais il n'y a pas de conditions favorables pour, en tout cas, aller au Burkina Faso.
Monsieur Hassan Bokar, selon vous, est-ce qu'il y a une raison particulière qui pousse les Nigériens à brader tous ces risques pour aller mendier au Burkina Faso?
Écoutez, d'abord, ce n'est pas nouveau. Il y en a, comme Mouna l'a dit, qui sont allés plus loin, en fait. Il y en a qui sont allés au Maghreb, d'autres sont allés au Ghana, au Sénégal, qui ont été aussi rapatriés. Et donc, ils sont retournés. Ça montre qu'on peut vouloir réprimer, mais il faut savoir le faire de façon efficace. C'est des gens, hein, vous les amenez aujourd'hui, le lendemain, ils retournent. Vous ne pouvez pas les arrêter de cette façon. À mon avis, c'est un problème très profond. Il faut davantage réfléchir, il faut impliquer les communautés sur la réflexion et trouver une solution. Il y a sans doute des gens qui le font parce qu'ils ont des difficultés, mais quand on a des difficultés, on peut chercher à travailler. Mendier, c'est quand même un problème. On peut chercher à travailler. Et donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un problème extrêmement profond. Il y a des pays où les gens sont pauvres comme nous. Le Burkina, le Mali n'ont pas des conditions économiques beaucoup plus. Mais vous ne les voyez pas venir mendier ici. Donc il y a un vrai problème, à mon avis, de ce point de vue, sur lequel il faut réfléchir. Le gouvernement prend les solutions faciles. Tu déploies des avions pour aller les prendre aujourd'hui. Mais tu ne vas pas mettre un policier derrière chaque personne. Ils finiront par s'en aller si telle est leur intention. Je pense qu'il y a vraiment un travail de fond qu'il faut faire. Peut-être créer des opportunités pour ceux qui veulent travailler et impliquer les communautés, vraiment essayer de trouver des solutions consensuelles. Mais pour l'instant, je pense que c'est un vrai problème et c'est quelque chose d'inacceptable où des gens, parfois dans de bonnes conditions, se mettent à faire des choses de ce type, alors que certains peuvent essayer de travailler. C'est vraiment, je ne dis pas qu'on a tout de suite des solutions. Il faut peut-être davantage comprendre aussi comment ça marche. Un problème qui n'est pas suffisamment analysé, on ne trouvera pas de solution.
De Kanté à Bobo Dioulasso, en passant par Niamey, on a l'impression que ce phénomène de mendicité est en train de se territorialiser. Doyen Ousseini, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'arrêter ou le stopper?
Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? On se rappelle quand on a
rapatrier nos compatriotes, ramasser dans les rues. On les a fait venir par des vols charter et tout le monde est content. Et à l'époque, il était question de mettre un comité de réflexion pour trouver. Et on a même criminalisé quelque part le phénomène où il fallait carrément, y compris les transporteurs, qui doivent, comme je vais dire, on leur a demandé de s'impliquer dans la lutte. Quand on voit des gens avec 5, 6, 7 enfants, machin, mais ça a été un feu de paille. Ça n'a pas duré longtemps. On a abandonné. En fait, véritablement, on ne veut pas prendre cette question à bras le corps. Parce que quand les gens qui vont là-bas, quand on les voit souvent, ce pas des gens qui sont véritablement nécessités. On sait dans quelles circonstances, même l'islam autorise la mendicité. Mais les gens, ils ne mendient pas. Ils en ont fait une profession. Quand les gens disent qu'ils vont en exode saisonnier, là, ce n'est pas pour aller faire une activité commerciale, ou c'est pour aller mendier. C'est ça l'activité. Je vous raconte une anecdote. Au mois de février, je revenais de Cotonou, où j'ai pris un bus. Pratiquement, le fond du bus, là, il n'y avait qu'une coque de mendiants revenant de Porto-Novo. Et j'ai commencé à causer avec eux. Une seule personne peut se retrouver avec 5 à 6 enfants. Imaginez, même pour rentrer dans le bus, ils ont négocié des tarifs préférentiels. Parce que je revendique mendiants. Avec les difficultés pour traverser de l'autre côté pour venir, c'était la même chose. Ça veut dire que le temps fou qu'on a eu à passer, tout c'est la mendicité. Même pour traverser avec tous ceux qu'ils ont comme baluchons. C'est pour dire, véritablement, si on veut lutter, parce que Maimoune vient de dire quelque chose, c'est les mêmes conditions, c'est les mêmes zones géographiques, c'est les mêmes situations de pauvreté. Comment quelqu'un... Et je me suis mis à causer avec un, avec qui j'étais assis d'un certain âge, avec qui... Il me dit qu'il a cultivé. Il a eu beaucoup de mil. Il a eu du niébé. Il a eu tout. Il a mis. Et il est parti. Il m'a dit, sans honte, parce que c'est la peur de mort. Et je vous dis, souvent, ces enfants qui les accompagnent, c'est des enfants qui louent. C'est-à-dire, c'est sous forme de contrat. On a sorti du milieu scolaire. Parce que je me suis inquiété. Je dis, avec des enfants en âge d'aller à l'école, certains qui ont un niveau prêt au collège ou ceci, cela. Est-ce qu'on peut continuer à fermer les yeux sur ça? Au nom de la joie, ce n'est pas un fait religieux, véritablement. On peut mettre fin à ça avec des mesures drastiques parce que aujourd'hui, si c'était le Sénégal, on considère que le Sénégal est un peu plus loti que nous.
Voilà, c'est un peu...
Mais maintenant, c'est arrivé jusqu'au Burkina Faso où c'est carrément les Burkinabés qui s'inquiètent. Quand on parle d'un pays et qu'on parle de... C'est les mandants du Niger.
Vous avez...
Alors, Côte d'Ivoire, Burkina, Ghana... Et Sénégal, sans compter les pays maghrébins, est-ce qu'on doit continuer comme ça? Moi, j'ai dit, on peut créer les conditions, on peut taper fort ceux qui s'adonnent à ça, parce que c'est devenu une activité, il faut que ça cesse d'être une activité. Et on peut mettre fin à ça.
Mais ce qui est aussi dangereux, c'est que c'est les femmes et les petites filles que tu vois, surtout à Niamey.
À Niamey.
Les femmes, ça veut dire que c'est comme si les hommes, après quand eux, ils quittent pour aller à une autre destination, on envoie les femmes également vers la capitale Niamey. Allez-y, vous débrouillez avec vos enfants. Et tu vas voir, c'est des filles qui sont en âge d'aller à l'école, des filles un peu plus grandes, qui aujourd'hui, en même temps que leur maman, elles sont dans la rue. Quand tu leur demandes, il y a d'autres qui te disent qu'elles viennent de Verwalam, elles viennent des zones de sécurité, elles ont rejoint ici. Quand tu leur demandes leur mari, ils disent, ah, les maris sont restés là-bas, c'est nous, on vient, on cherche pour aller leur envoyer. Mais est-ce que ça, on va continuer à regarder ça? Parce que si vous dites que c'est un commerce que vous êtes en train de faire, je pense que la loi doit suivre.
Voilà, Maimouna, nous sommes à la fin de ce forum de Studio Kalangou. Merci à nos invités, Maimouna Jado, journaliste indépendante, Hassan Boukar, journaliste à la radio alternative, et Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous tous, chers auditrices, auditeurs et internautes, pour votre fidélité au programme de Studio Kalangou. Moustapha Ayouba était à la technique. Moi, Tarnan Fouda Ahmed, j'étais à la modération de ce forum. Merci à toutes et à tous. À la prochaine.